mama, ito nang tumanga ibiyama. Nailo, ito nang tumanga ibiyama.
Il fera froid là-bas, mais il n'y aura plus personne. Personne parce que là-bas c'est chacun pour soi et Dieu qui donne. Rarement cette joie d'être et d'appartenir à ta race. Il n'y aura plus de place, c'est l'unité que tu as connue chez toi. Tu oublieras tes parents et tu penseras qu'à tes études. Avec cette attitude, tu pourras ravaler ta solitude. Illusion, c'est chaque visage, tu verras comme une inscription te rappelant que t'es qu'un gibier parmi les lions. Tu rédigeras des lettres que le facteur n'aura jamais. Tu ramèneras de belles photos et tu diras que tout est parfait. Tu resteras 5-6 ans jusqu'à ce qu'un jour un message t'annonce le mariage de ta sœur cadette. Tu tiendras la tête entre les deux mains en pensant au clair de lune, aux enfants et aux tambours parlant. Mais qui sera là pour te conter l'événement? Au fond de ton âme, tu seras marqué profondément. Tu connaîtras l'amour, pas celui de Fatoumata, mais celui des dîners, des fleurs, bref, de Natalia. Tu voudras plus venir quand ta mère malade va souffrir. Tu vas plus reprendre.
C'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Oui, il faut arrêter de se faire exploiter, la foule.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Lundi, dans mon lit,
On dit bonsoir à tous, messieurs, dames. Merci de nous choisir, de choisir Radio Cani pour vous informer. Encore 59 minutes avec vous sur l'appli Rebelle de Radio 102.2. Chaque lundi à partir de 19h, nous sommes là pour vous aider à mieux comprendre l'actualité marquante de la semaine précédente. Décisez. Comme la demande au niveau international, vous savez, la demande de l'acquittement de Laurent Gbagbo à la CPI, mais aussi l'élection au Brésil, puis on va aller aussi en Centrafrique pour parler des violences politiques. Au niveau national, on va parler des sujets, comme vous savez, il y a eu des nouvelles offensives contre les cheminots, et puis encore, on va parler au niveau communal, un cheminot lyonnais se suicide sur son lieu de travail. Mais ce n'est pas fini, après on aura aussi une interview sur l'occupation de Colèze Maurice Sève.
Et on finira avec un dossier, donc une interview sur donc oui, l'occupation. J'ai pas bien écouté. Très bien.
Enchaîné avec les élections au Brésil.
Alors, les élections au Brésil. Donc, vous avez peut-être entendu parler, hein, il y a aujourd'hui eu le premier tour des élections présidentielles au Brésil et il a failli ne pas y avoir de second tour. Pourquoi ? Puisque le candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, a obtenu 46% des voix contre 29% pour celui du PT, donc représenté par Fernando Haddad. Donc, le PT, c'est le parti des travailleurs. 46% à 4% près, hein, donc l'extrême droite arrivait directement et immédiatement au pouvoir. Le candidat de centre-gauche, Ciro Gomes, il est arrivé troisième avec 12,5% des voix, et la droite n'a obtenu, entre guillemets, que 4,9% des voix, ce qui correspond à une défaite historique pour la droite brésilienne. Le reste des partis, je vous passe les détails, hein, sont arrivés entre 0,5% et 2,6%, donc obtenu, hein, entre 0,5% et 2,6% des voix. En gros, la victoire est quasiment assurée pour Bolsonaro, puisqu'il est peu probable que l'intégralité des votants pour ses adversaires vote pour Haddad, donc le candidat du Parti des Travailleurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis fin août jusqu'à ce premier tour, hein, les institutions brésiliennes, qu'elles soient judiciaires, que ce soit les médias ou que ce soit les forces armées, ont utilisé différents moyens pour appuyer le coup d'État institutionnel, entre guillemets, hein, qui a destitué l'ex-présidente Dilma Rousseff en 2016. Depuis, le pouvoir judiciaire s'est organisé pour garantir un plan d'attaque et intervenir dans le processus électoral de manière autoritaire afin d'empêcher la population de voter pour qui elle le souhaite. Alors, l'exemple le plus criant, c'est l'incarcération et l'invalidation de la candidature de l'ex-président Lula, hein, ex-président du Parti des Travailleurs, hein, qui était en tête des sondages il a été incarcéré et son invalidation pour des raisons de corruption. Alors, ce qui est vrai, puisque la corruption du PT est un secret de polichinelle, mais il y a bien eu, tout a été mis en œuvre pour l'incarcérer et empêcher son invalidation en quelques semaines, alors qu'il avait beaucoup de chances de gagner ses élections. En quelques semaines, 16 mesures ont été prises dans le même sens. Bolsonaro et son candidat à la vice-présidence, le général de l'armée Hamilton Mourão, sont des ardents défenseurs de la dictature militaire de 1964 à 1965, hein, qui a eu lieu au Brésil. Ils sont racistes, ils sont misogynes, ils sont homophobes. Ils détestent les femmes, les noirs, les amérindiens, les LGBT et les travailleurs. Ils représentent les intérêts de l'armée, de l'église évangéliste, de l'agrobusiness et des pro-armes. Comme à l'époque des dictatures militaires en Amérique du Sud, ils sont bien sûr soutenus, hein, et ils auront le soutien s'ils sont élus, du secteur de la finance et des marchés. Alors, loin de nous l'idée de soutenir l'autre candidat du PT, puisque sous les différents gouvernements, hein, des candidats du Parti des Travailleurs, la pauvreté et la corruption ont explosé. Pendant ce temps-là, les grands patrons et les banquiers se sont enrichis comme jamais. Mais ce retour au pouvoir de soutien inconditionnel aux tortionnaires de la dictature est une très mauvaise nouvelle pour les travailleurs, pour les pauvres, pour les minorités, pour les femmes et pour le mouvement révolutionnaire.
On va enchaîner en parlant du procès de Laurent Gbagbo.
Alors, après, quand on quitte le Brésil, on va disons en Côte d'Ivoire, mais Laurent Gbagbo qui se trouve à La Haye, aux Pays-Bas. Donc, il faut dire que
Les avocats de l'ex-président Laurent Gbagbo et Blaise Goudet demandent l'acquittement total à la CPI, la libération de leurs clients. Vous savez, l'ex-président ivoirien a été arrêté le 11 avril 2011 par les forces d'Assane Ouattara dans sa chambre à coucher avec sa femme Simone Gbagbo et son fils Michel dans son quartier à Abidjan. Mais dans cette opération, l'armée française est accusée d'ingérence. Selon les pro-Gbagbo, certains disent être arrêtés par les forces des licornes. Or, le gouvernement français répond en disant qu'il n'y a pas eu d'ingérence. Selon le gouvernement, les soldats français de la force licorne interviennent en soutien de la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire. Un soutien aérien à la demande des pays, disent-ils. Alors, après quelques années de l'arrestation de Laurent Gbagbo, il fut amené à la CPI. La CPI, vous savez, c'est la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, Blaise Goudet et Gbagbo sont accusés de crimes contre l'humanité, puisqu'ils seraient responsables de toutes les violences ayant survenu à l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire, où il y a eu vraiment des violences post-électorales. Plus de 3000 personnes avaient été tuées selon l'ONU, environ 15 000 femmes violées, d'après l'organisation Women Rights Watch. Désolé pour mon anglais. On peut citer certains événements qui sont vraiment des événements néfastes, des événements vraiment catastrophes qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Et nous savons celui le 3 mars 2011 et aussi des massacres des quartiers de Yopougo le 12 avril 2011. Aujourd'hui, on peut dire 4 ans jour pour jour, Gbagbo est à la haie. Le procureur Fatou Bensouda, actuel président de la Cour, a passé par tous les moyens pour pouvoir condamner et inculper Laurent Gbagbo, avec 82 témoins pendant 48 mois à la barre. Les avocats de la défense estiment que le dossier portant sur les accusations de leurs clients sont vides, raison pour laquelle les juges de la CPI ont autorisé en juin à la partie défense de plaider l'acquittement de leurs clients. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend le bureau du procureur a échoué à convaincre malgré l'audience de ses témoins, même si l'accusation avait prévu 138 témoins, mais la cour a décidé de s'arrêter à 82, car les témoins ont été plus à décharge qu'à charge contre Laurent Gbagbo. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi Laurent Gbagbo aujourd'hui à la haie? Selon le site Mediapart, il relève l'année dernière que Laurent Gbagbo aurait été convoqué à la CPI sans aucun mandat. Selon le site d'information qui explique toujours que le motif de l'inculpation de l'ex-président, c'est pour faciliter la tâche à Dramane Ouattara. Selon un certain Fanny qui a enquêté sur le dossier, elle relève que le procureur d'Argentan, le premier procureur de la CPI, Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, aurait adressé au ministère des Affaires étrangères afin que le ministre intervienne pour que Laurent Gbagbo soit maintenu en détention afin d'être transféré à la CPI. Toujours selon cette source, une note diplomatique serait relayée par le département de l'Afrique à l'Elysée, vous savez sous qui? Sous Sarkozy, du ministre des Affaires étrangères des postes à Abidjan, confirme Hassan Diop. Selon ce journaliste de la RFI, Radio France Internationale, le procureur a engagé une enquête sur une base illégale, sans aucun motif légal. Son successeur, Fatou Bensouda, va faire voter à son arrivée, tout en considérant que l'affaire est sortie de l'espace privé. Et pourtant, la justice, on sait que la justice, normalement, on sait que la justice est censée être libre, indépendant de pouvoir politique. Or, dans ce cas de figure, on remarque que le procureur avait des relations permanentes avec le gouvernement français, l'ami intime actuel président ivoirien, Ouattara. Vous savez, Ouattara, quand il fut nommé premier ministre sous le gouvernement de Ofwe Boigné en 1990, Sarkozy était l'avocat d'affaires qui travaillait avec un certain Bouygues qui a des intérêts en Côte d'Ivoire. Donc, je vous laisse imaginer la suite. Donc, d'ailleurs, il faut dire que Sarkozy avait même dit dans son livre, vous pouvez vérifier à la page 39 de son livre, Ça reste entre nous, apparu en novembre 2014 aux éditions Flammarion, il avait dit, on a sorti Gbagbo pour installer Ouattara. Et d'ailleurs, Ouattara aussi n'a pas manqué de dire sur le colon de la Jeune d'Afrique, il avait dit, s'il avait cinq amis dans le monde, Sarkozy en fait partie. Alors, pour quelle raison est-il intervenu? Est-ce un aveu d'un coup d'État?
Est-ce pour faire respecter le choix des Ivoiriens? Pourquoi s'est-il opposé alors à la demande de Bagbo du recomptage de voix sous la supervision de la communauté internationale pour voir où se trouvait la vérité? Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, au moment où le partisan de Bagbo commence à garder l'espoir, le procès connaît encore un autre coup d'arrêt suite à une demande de report formulée par l'équipe de défense. Selon Maître Clavé, membre de la Défense, ils ont dit qu'ils ont reçu un document de 1093 pages en anglais émanant du procureur. Donc, il faut dire que le procureur met les bâtons sur les roues des avocats pour empêcher que le procès ait lieu afin que l'ex-président soit libéré peut-être. Avec 6000 références au pied des pages. Donc, mais de toute façon, les avocats de la Défense promettent de détruire les allégations du procureur, point par point, selon eux. Rendez-vous le 12 novembre, on verra la suite du procès.
Tu nous en reparleras?
Sûrement, je vais revenir. Pourquoi pas?
Alors, en attendant, on va aller faire un tour en Centrafrique, comme on le fait régulièrement.
Tout à fait. Là, on va partir en Centrafrique, où il y a encore un regain de violence. En effet, selon le journal La Voix des Sans-Peuples, le 1er octobre, des événements tragiques ont encore eu lieu au PK5. Dans le 3e arrondissement à Bangui. Et en même temps, il y avait aussi d'autres événements tragiques qui avaient eu lieu dans la sous-préfecture de la RCA à Sousona-Kombo. En effet, à Bangui, sur l'axe menant au PK5, hein, sur l'axe menant au Pankokoro, il y a eu 3 corps qui ont été retrouvés sans vie. Il s'agissait en fait d'un conducteur de taxi-moto et ses 2 passagers. Or, la veille même, il y a eu des tensions dans le 5e arrondissement. En fait, c'est un quartier qui est annexant au PK5 suite à la mort d'un musulman par des inconnus. En effet, après plusieurs semaines d'accalmie, Touadéra a même fait une fausse propagande de paix et de sécurité. Mais quelle paix et sécurité peut-il y avoir sans qu'il y ait un désarmement sur l'ensemble du territoire? Et ces bandes d'éléments incontrôlés, fumeurs de chanvre, ont encore des armes en leur possession. Et ça, c'est de l'irresponsabilité de la part de Touadéra, qui met ainsi des gens, des vies en danger, en péril. Il est incapable de pouvoir protéger la population et préfère se pavaner, bien sûr, de gauche à droite. Il ferait mieux, avec son gouvernement, de pouvoir se recentrer sur le désarmement sur l'ensemble du territoire et que justice soit faite. Marre de toutes ces violences et actes d'assassinat perpétuels, avec des tirs de détonation, d'armes légères et d'armes légères qui ont recommencé, dû à des luttes de partage de butins et de règlement de comptes entre des factions rebelles au kilomètre 5. Et ces factions de rebelles amènent franchement terreur et désolation à la population qui est tenue en otage, au vu et au su du gouvernement. Et Touadéra devrait franchement pouvoir prendre ses responsabilités et protéger son peuple de ces perpétuels assassinats. Et comme il n'y a plus de loi qui tienne en Centrafrique, hein, chacun fait sa propre justice selon sa convenance. Il y a eu malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, 3 sujets chinois qui en ont payé les frais dans l'une des sous-préfectures de Nanamombéré en Centrafrique. En fait, ils ont été assassinés par la population qui était en colère. Ils ont pris d'assaut la gendarmerie dans laquelle ils s'étaient réfugiés. Et ce, après, en fait, ils étaient en pirogue avec le président de la jeunesse de la dite préfecture. Et ils ont leur pirogue a chaviré. Et le président de la jeunesse, ne sachant pas nager, s'est noyé. Et la population qui déjà haïssait les Chinois parce que le gouvernement a bradé toute, comment dirais-je, la terre, les zones minières en fait. Et la population s'est sentie dépossédée de là où ils pouvaient faire l'agriculture, la pêche ou la chasse. Et donc ils en ont profité pour pouvoir s'attaquer à avec la violence, la haine, la terreur qu'ils avaient. S'ils n'avaient pas de quoi manger, ils étaient tout ce qu'ils avaient comme terre nourricière pour pouvoir produire de quoi manger a été bradé et vandalisé par le gouvernement aux Chinois, ce qui a fait qu'ils ont tué, assassiné ces 3 Chinois-là. Et le gouvernement, jusque-là, ils ont même menacé le gouvernement au cas où ils leur demanderaient de pouvoir dénoncer les auteurs de cet acte. Donc là, actuellement, que pouvons-nous dire? Touadéra, il devrait franchement, comme je disais depuis tout à l'heure, prendre ses responsabilités et faire revenir la justice en Centrafrique. Mais il devrait commencer par le désarmement. Merci.
Ok, et après Centrafric, on va écouter un artiste, comme vous savez, un rappeur qui est aujourd'hui la figure de proie du rap politique. Vous pouvez imaginer, il s'agit de qui? Il s'agit tout simplement de...
Kerry James.
Alors, Lettre à la République.
Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches ont d'honneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros muterés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanie pompier, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix. Votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas. On le sait parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas ingrat, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narco, trafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat. Bande hypocrite, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français. Sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités. Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? T'es loin des artistes transparents. J'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection. Comprends, je n'attends plus qu'elle-même.
Allez, merci. À présent, c'était Kerry James sur la 102.2, la plus rebelle de radio. À présent, on va aller parler de cette nouvelle offensive contre les cheminots. Qu'est-ce qui se passe au niveau des cheminots?
Alors, effectivement, il y a plusieurs nouvelles attaques, et pas des moindres, hein, contre les cheminots. Alors, le 4 octobre, ce gros enfoiré de Guillaume Pépi, hein, qui n'est autre que le directeur général de la SNCF, a annoncé dans le journal patronal, donc ses alliés, les Échos, une nouvelle attaque d'ampleur contre les cheminots, avec en perspective, hein, en quelque sorte, la fin du statut, la disparition d'une bonne partie des emplois et un changement assez radical du contenu, des cheminots du contenu, hein, donc de ce qu'ils ont à faire. Alors, je le cite, hein, il nous explique dans les échos, enfin, il ne nous explique pas à nous, mais à ses amis, les patrons, d'ici à 2026, 10 à 15% des 140 000 postes actuels vont disparaître du fait de la digitalisation. Alors là, petit aparté, hein, 10 à 15%, ça fait entre 14 000 et 21 000 postes qui vont être supprimés d'ici à 2026. Alors on reprend sa citation. 35% des postes vont voir leur contenu changer radicalement. Pas plus d'explications pour le moment, hein, mais il précise que pour une entreprise industrielle, c'est un choc sans précédent. Les salariés se posent des questions sur le maintien de leur employabilité, d'où leur apporteront des réponses précises. Ok, alors, de plus, toujours par l'intermédiaire de Pépi, à la botte du gouvernement, de Macron et du patronat, hein, il nous déclare qu'il ne peut y avoir de SNCF à deux vitesses, hein, je les cite, hein, il ne peut y avoir de SNCF à deux vitesses, le statut des cheminots d'un côté et des nouveaux salariés de l'autre. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que ce qu'ils ont eux-mêmes mis en place, c'est-à-dire via la réforme de la SNCF de 2008, la suppression du statut des cheminots pour tous ceux qui viennent d'entrer, et bah pour eux, ça légitime le fait qu'il ne peut donc y avoir deux statuts différents et deux vitesses. Et donc là, l'objectif est bien de s'attaquer aux cheminots qui sont déjà employés. Hein, le gouvernement repasse donc ici à l'offensive et s'attaque à ces cheminots déjà embauchés, et notamment à ceux qui ont fait grève. Alors, malgré la défaite du mouvement Perlé d'avant l'été, la détermination des cheminots, elle est loin d'être éradiquée, elle est loin d'être terminée. Et ce, malgré la stratégie perdante imposée par la direction de la CGT lors du conflit. CGT qui est d'ailleurs repartie sur une stratégie de négociation en cette rentrée. Bon, c'est pas surprenant, hein, mais Martinez sera bien présent à Matignon pour se voir imposer la réforme de l'assurance chômage. Alors, on rappelle que demain, c'est une journée de grève, on en reparlera à l'agenda, hein, mais les cheminots seront présents puisqu'ils sont une nouvelle fois attaqués. Et là, ce sont ceux qui sont employés et pas les nouveaux arrivants.
Alors là, de cheminot en cheminot, on voit un cheminot qui se suicide sur son lieu de travail.
Oui, ça c'est à Lyon, on passe au local. Et donc oui, un cheminot s'est suicidé vendredi dernier à Lyon en sautant par la fenêtre de son lieu de travail. Il a sauté du 5e étage et n'a donc pas du tout pu être réanimé par les secours. Il aurait sur lui une lettre et il aurait aussi laissé un mot sur son ordinateur expliquant la raison de son suicide, mais leur contenu n'a apparemment pas été rendu public. Et en tout cas, le syndicat CGT déclare ne pas connaître la raison précise de son geste. Ce cheminot-là, ce n'est pas le premier, puisqu'en 2017, ce sont plus de 50 cheminots qui ont mis fin à leur jour. Très certainement en lien avec leur travail, ça c'est d'après Sudrail, qui explique que la plupart des suicides ont eu lieu après une réunion avec un supérieur hiérarchique ou une restructuration. Et puis on en trouve très facilement des témoignages de cheminots encore vivants qui se sentent infantilisés sur leur lieu de travail par leur supérieur, qui leur reprochent par exemple de coûter trop cher et qui témoignent de leur état de déprime. C'est vrai que c'est difficile d'avoir de manière générale des chiffres sur les suicides causés par le travail, pas seulement chez les cheminots, parce qu'on n'a pas toujours les causes, on n'a pas toujours déjà la lettre, mais ça arrive, et on sait que le mal-être au travail est une grande cause de suicide, aussi grâce à l'analyse des proches qui ont vécu avec les personnes qui se sont suicidées jusqu'à ce qu'ils meurent, quoi. Et donc il faudrait bien à un moment donné changer notre rapport au travail, mais il faudrait aussi finir par changer le rapport qu'on a avec le monde, et même le monde tout court, parce que les gens qui se suicident, avec ou sans lien avec leur travail, il y en a en moyenne 10 000 en France, soit 25 par jour. Si ça ne vous convainc pas qu'on vit dans un monde de merde, sachez que ça représente quand même plus de morts que les accidents de la route. Alors qu'on propose à peu près à chaque quinquennat des mesures pour faire baisser le nombre de morts sur la route, alors que si ça chagrine vraiment que des gens meurent, on pourrait peut-être se dire qu'il est plus urgent de faire baisser le nombre de personnes qui trouvent que ce monde et la vie qu'ils y vivent, c'est de la merde.
Waouh, on va toujours rester au niveau local. On sait que Lyon abrite le sommet des S6 à Lyon. Déjà, on dit que la circulation et le stationnement sont perturbés à Lyon.
Alors oui, ceux qui habitent près de l'hôtel de ville, probablement, ceux et celles qui habitent près de l'hôtel de ville, vous avez dû en entendre parler, mais ça a été quand même relativement faible. La diffusion de cette information, il y a à Lyon, aujourd'hui et demain, un G6 européen des ministres de l'Intérieur. Donc aujourd'hui et demain, on a le ministre de l'Intérieur qui n'est plus Gérard Collomb de la France, donc c'est Édouard Philippe. On a le ministre de l'Intérieur de l'Allemagne, de l'Italie, donc Matteo Salvini, hein, de l'Espagne, du Royaume-Uni et de la Pologne. Et on a également le commissaire européen à la sécurité, le commissaire européen aux migrations et le procureur général des États-Unis, ainsi qu'une représentante de la secrétaire américaine à la sécurité intérieure. Tout ce beau monde va discuter de, je vous cite le titre, enjeux migratoires / sécurité et lutte contre le terrorisme. Et oui, car c'est bien connu, ce sont les migrants sont des terroristes ou ce sont les migrants qui sont terroristes. C'est un lien de cause à effet évident. Et d'ailleurs, ces discussions, hein, ces ministres vont en discuter aujourd'hui autour d'un dîner à la préfecture, donc avec notre brave préfet lyonnais. Demain, ils vont se faire une petite sortie. Le Groupama Stadium a été réquisitionné pour une démonstration du schéma national d'intervention avec un exercice de grande ampleur de gestion d'un attentat terroriste fait évidemment par les migrants, bien sûr, hein, faisant intervenir plusieurs centaines de forces spécialisées ainsi que des figurants. Alors, cet exercice, il est prévu depuis plusieurs mois. Cette simulation, elle va permettre au G6, je cite, hein, de mieux appréhender le savoir-faire en cas d'attaque terroriste dans un lieu public, puisque la France serait du coup plutôt bien avancée dans ses gestions d'attaques terroristes et, vous le savez, aussi dans la gestion répressive des migrants. Alors, ce G6 fait suite à celui de l'année dernière à Séville et il fait vraiment froid dans le dos, hein, puisqu'il amalgame migration et terrorisme, rien que dans le titre et pas uniquement. Hein. Que l'objectif est de réprimer toujours plus les migrants et de fermer toujours plus les frontières. Or, on le sait, plus les frontières de l'Europe forteresse se ferment, plus les migrants prennent des risques pour passer et que plus ils prennent de risques, plus il y a de morts. Cette année, depuis le début de l'année, hein, donc 1260 personnes au moins sont morts en mer Méditerranée, et ça, c'est que les chiffres pour la mer Méditerranée. 3091 sont morts en 2017. Dernièrement, dans les politiques répressives de l'Union européenne et des États membres de l'Union européenne, on sait que le dernier bateau de secours, l'Aquarius, est interdit de naviguer, notamment et entre autres sous pression de Salvini, mais soutenu par des États comme la France, hein, et Macron. Et puis, ce G6, hein, des anti-migrants, hein, et qui amalgame les terroristes aux migrants, c'est une offense à la situation des migrants à Lyon, qui est absolument catastrophique. On en a déjà beaucoup parlé dans cette émission. On va en parler bientôt après un prochain morceau musical et sur notamment une occupation à Croix-Rousse, hein, d'un collège Maurice Sève par des mineurs et pour des mineurs isolés étrangers. Mais entre-temps, on va vous passer.
Ouais, on va aller écouter Tiken Diafakoli auprès des frontières.
Liberté, on veut que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on manque.
laissez-nous passer à présent. On vient d'écouter Tiken Diafakoli, ouvrez les frontières. Et sans transition, on va continuer.
On va passer à notre interview. Puisqu'on a plusieurs invités avec nous ce soir. Et comme annoncé, on va vous parler de l'occupation actuelle du collège Maurice Sève.
Alors, salut tout le monde. Déjà, hein.
Salut.
Voilà. On va donc parler de cette occupation, mais avant, on va déjà vous demander aux deux premiers concernés qui vont nous parler ce soir, aux trois premiers concernés qui vont nous parler ce soir, de se présenter comme vous le souhaitez. Vous pouvez donner votre nationalité, et c'est vous qui décidez votre présentation. Alors, dans l'ordre.
Ah bon, je salue tout le monde ce soir. Nous sommes la radio Canu. Vraiment, mon nom, c'est Traoré Isaac. Je viens de la Guinée, Conakry.
Bonjour, bonsoir. Moi, je m'appelle enfant d'Afrique et je viens du monde, quoi. Je suis un enfant du monde. Ben, c'est tout ce que je peux dire. Et là, je suis là aujourd'hui, c'est pour exprimer ce que moi je ressens, quoi.
Et de quel continent ?
L'Afrique,
nous sommes les avants d'Afrique aussi.
Bonsoir à tout le monde. Moi, je me nomme, je me présente devant vous. En fait, je viens de la Guinée-Conakry, comme il a fini de se présenter. Moi, je me nomme Diallo Amadou.
D'accord. Vous êtes donc tous les trois mineurs.
Oui.
Voilà. Alors, première question. Avant d'arriver à Lyon, quel a été votre parcours rapidement ? Vous pouvez donner certains détails si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas tous obligés d'y répondre, mais vous pouvez donner certains détails si vous le souhaitez. Alors le premier, je ne sais pas.
Bon, moi personnellement, moi Traoré Isaac, bon, moi j'ai quitté en Italie. Bon, je ne connais pas le jour ou la date, franchement, mais quand même c'est le mois août.
Au mois d'août, tu as quitté en Italie.
Oui.
Mais est-ce que tu peux faire juste une brève présentation avant l'Italie
Par quel pays t'es passé avant l'Italie
Moi, personnellement, j'ai passé avec l'Algérie. Après l'Algérie, je suis passé par le Niger. Ouais. Après le Niger, je suis passé par la Libye. Après la Libye, je suis passé par l'Italie.
L'Italie avant d'arriver à Lyon.
Okay. Oui.
Et moi, je suis quitté depuis 2017 en fait, avril 2017 de mon pays. C'était pas parce que je voulais, mais c'était parce qu'il fallait et c'était pour ma propre sécurité en fait. Et je remercie ma grand-mère en fait, même comme elle n'est plus. Et là où elle est, je sais quand même qu'elle pense à moi. Je lui remercie pour ce qu'elle a pu faire. Pour moi, elle a pu sauver ma vie et grâce à elle, je peux dire, et c'est prier même là où elle est, c'est qu'elle prie pour moi. Grâce à elle, je suis arrivé ici, c'était pas facile. Parce que c'est avec elle que je suis quitté de mon pays, vu que toute ma famille, en fait, a été assassinée des manifestations de la zone anglophone. D'accord. Dans un coin en Afrique, en fait. Ça, on peut bouger depuis 2016.
Ah, on peut imaginer de quel. De quel côté
C'est là où j'ai perdu ce qui était le plus cher pour moi, ma maman. Et depuis ce jour, je n'ai plus vraiment la tête tranquille, ni le sommeil. Même l'esprit n'est plus vraiment ce que c'est. Il y a des fois, je me pose moi-même la question si je suis fou ou pas. Parce qu'il y a des trucs, je ne sais pas comment est-ce que ça peut arriver. Ou là où je me trouve actuellement, il y a des choses, je ne sais pas. C'est pour cela que je me pose la question si je suis fou, parce que la vie que moi je vis, si je n'ai jamais vécu ça. Mmh. Avant de quitter dans mon pays, je suis passé. J'ai fait le Nigeria. Je suis resté là-bas des mois, mais pas longtemps. Après, je suis passé par le Niger. Et le Niger, c'était tout un calvaire que j'ai vécu. Et pareil que la Libye. Et mon arrivée en Libye, c'était vraiment un cauchemar. Ce que je n'avais jamais vécu de ma vie et je ne croyais pas. Mais j'ai vécu ça. J'ai fait 10 mois arrivé en Italie, c'était un vrai calvaire. 10 mois passé en Libye, pardon, c'était un vrai calvaire. Et parmi les 10 mois, 7 mois de prison et... Vous voyez un peu de
ouais,
quoi
ouais,
je
ouais,
parlais.
On voit très bien.
On a entendu parler de ce qui se passe en Libye.
Et arrivé, j'ai pu arriver en Italie et vu que la vie aussi, je m'en sortais pas bien, tout ça, la langue, tout ça. Et le racisme qui est aussi là-bas. Parce que moi, j'étais victime. Moi, ça m'est arrivé. On m'a lapidé avec des cailloux en Libye. C'est là-bas la première des causes que moi, j'ai voulu quitter l'Italie. Parce que sinon, monsieur, que vous êtes dans les rues. Moi, je me suis fait lapider avec des pierres. C'est pas quelque chose que. Une histoire de quelque chose. Ce qu'il parle, c'est mon histoire.
Ouais, tu l'as vécu.
Mais beaucoup de gens vont quoi. Ben, c'est. Ce qu'on raconte, c'est la
non,
même chose.
Non, il faut
chose.
Vivre, il faut y
c'est
aller
c'est
pour.
C'est ce que moi j'ai vécu vivre. Et je remercie le bon Dieu. Durant toute mon aventure, ça m'a fait beaucoup grandir, beaucoup appris, j'ai appris beaucoup de choses. Mais comme c'est pas facile.
Ouais.
Et là maintenant, j'aimerais vraiment expliquer en fait ce que moi je vis actuellement. Durant tout ce que j'ai vécu, je sais actuellement, je suis un cadavre là où je suis. C'est pour ça que j'ai dit tout le temps à tous ceux qui m'entourent que moi je suis déjà mort.
Non, tu n'es pas mort. Tu es avec nous, tu n'es pas mort.
Vu ce que moi j'ai traversé,
ouais.
vu ce que nous on a traversé le plus parmi nous, il y a plein d'entre nous qui ont traversé.
Ouais.
Ça, c'est la mort. Nous sommes cadavres. C'est ce que je dis toujours à mes amis.
Oui, je comprends.
Tu vois, il faut savoir un peu ce qui,
non, je comprends.
C'est qui coule dans nos cœurs. On n'a plus de cœur, frère.
Ok, on va respirer, on va continuer avec le troisième qui est avec nous.
Ouais, merci pour ce témoignage qui est très fort. Ouais. On va continuer donc effectivement avec...
Amadou Diallo. Ok, en fait, moi, je me explique un peu mon histoire. C'est pas tout, en fait, je vous donne un peu des exemples. Frappant, d'abord, avant de quitter dans ma pays, j'ai vécu dans la rue pendant 4 ans d'abord. Dans mon pays, propre pays d'abord, j'ai vécu pendant 4 ans. Je vis dans la rue. Je mange dans la rue et je dors dans la rue. En fait, c'est un choc accident qui m'a eu, que je ne pensais jamais dans ma vie. C'est le choc accident qui m'a fait quitter dans mon pays, en fait. Depuis que j'ai quitté ce mois, en fait, ça fait aujourd'hui 3 ans et quelques mois. En fait, j'ai quitté ce mois, j'ai venu au Mali, Algérie, Libye, en fait, Italie. Mais au Mali, j'ai fait là-bas 5 mois. Quelques jours après, je venais en Algérie. En fait, je vais en Algérie quelques mois, en fait, plus de 4 mois et quelques. J'ai quitté en Algérie, j'étais à Oran aussi en Algérie. J'ai rentré à Libye. En fait, je fais à Libye, en fait, 1 an successif. Je suis à Libye. En fait, à mon histoire Libye, si c'est pas comme ça, je n'explique pas à ça à quelqu'un, parce que quand ils expliquent, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas te croire aussi. Moi, en fait, j'ai dirigé à Libye, j'ai travaillé là-bas un peu, et on m'a vendu encore à Libye. Mon premier jour de l'entrée à Libye, j'ai vécu d'abord 7 jours. Moi, une semaine, on nous a attrapés. On nous a enfermés, j'ai fait 6 mois en prison. Après, on m'a vendu, il n'y avait pas personne qui pouvait nous délivrer, on était 8 personnes. On nous a vendu quelqu'un qui dirigeait les gens, une partie qui s'appelle Zavia. Peut-être que beaucoup de personnes entendent le nom là.
Oui.
En fait, on m'a vendu avec les Zavia, les militants qui étaient à Zavia. Maintenant, comme on n'avait pas de moyens qui vont nous faire sortir, en fait, il n'y a pas personne pour appeler pour nous aider. Parce que moi, en fait, dans ma vie, je ne peux pas dire, je n'ai pas de la famille, mais ce n'est pas beaucoup.
Ok, on va revenir parce que tu nous as dit que tu as eu un accident dans ton pays.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de
quoi
il s'agit?
Le moment que j'ai vécu dans mon pays, j'ai vécu 3 ans successifs à Ban, j'ai vécu 4 ans dans la rue. Le trois ans là, j'ai vécu, je ne faisais rien. Un an qui reste, j'ai commencé à conduire moto, j'ai prêté les jamis comme du fait taxi après le noir. La nuit, il te demande le recette, tu viens, tu prends avec lui. La journée, tu travailles, la nuit, tu rentres, tu lui mets ton argent, puisque tu peux gagner un peu, le manière que tu vas manger. Un jour, un beau matin, je n'oublie jamais le jour-là, c'était lundi. C'était encore janvier, c'était décembre, le 27 décembre, je n'oublie jamais le jour-là. J'ai sorti à vers 10h, j'ai apporté quelqu'un, c'était à Debreca.
J'ai pris quelqu'un. Il faut rappeler que Debreca, c'est pas non loin de Conakry.
Oui, c'est ça. Oui. Parce que je vais quitter la rue de Conakry, je peux dire que je connais tous les balais de Conakry et je connais Conakry très très bien. Si les Guinéens sont dit que c'est un des Guinéens, je peux dire que je suis Guinéen plus que les Guinéens. En fait, Maintenant, lorsque j'ai pris le moto le matin, je suis parti prendre avec l'homme qui me prêtait. Je travaille pour lui. Le soir, je fais le reset. Et ce que je gagne, je peux me nourrir avec ça. Et je dors à côté des amis. Maintenant, le jour-là, j'ai sorti, j'ai parti déposer quelqu'un à mon retour. En fait, j'ai roulé, j'ai rencontré avec une femme qui a porté de riz comme ça. Il avait attaché une bébé dans son dos. Il a une bébé encore dans sa main. Maintenant, dès qu'il est sorti dans le virage, son calepin est tombé sur le goudron. Il n'a pas traversé. Il n'a qu'à prendre le calepin. Avant qu'il va prendre, il va s'élever. Il ne savait pas où aller. En fait, moi aussi, on a rencontré en même temps. Depuis qu'on a rencontré là-bas, on s'est tombé, je ne savais rien qui se passe. Et encore, j'ai tous les preuves sur mon corps. Peut-être vous voyez ça, peut-être un peu.
Donc, tu nous montres une cicatrice, en fait.
C'est une cicatrice qu'il nous montrait.
Oui. En fait, lorsque ça s'est fait, maintenant, on nous a amenés à l'hôpital. J'ai fait là-bas plus d'une semaine et quelques. Maintenant, je me souviens de ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé un peu. En fait, il y a beaucoup de personnes qui venaient me poser des questions. Ma famille me demandait beaucoup de choses. Des personnes disent, où est ta famille? Personne ne connaît pas ma famille. J'ai vécu 4 ans dans la rue. Je n'ai jamais de la famille. Ma mère, je ne connais pas ma mère dans ma vie. Je suis grandi avec mon père. Mon père est décédé devant moi en 2013. En fait, ce qui l'a rendu choc, à son magasin, là où il vendait, là où il nourrait, il vivait. En fait, il y avait une petite grève, les élèves, un bon dimanche, ils ont fait la grève, ils ont brûlé les magasins à Conakry. En fait, depuis qu'il a perdu ses biens, il ne s'est plus se retrouver, il ne sortait plus à la maison, en fait. Depuis ça, il a vécu quelques mois après, depuis qu'il est décédé. En fait, je vivais seul, j'étais avec ma grande sœur, je suis séparé avec ma grande sœur, il n'est pas retourné, c'est mon oncle. Mon oncle me parlait des mots, il me disait, je ne suis pas fils de mon père. Je ne pourrais pas résister, je ne pourrais pas rester. Je préférais vivre seul, dans la rue. En fait, j'ai toutes les preuves de ça aussi. Le manuel que j'ai vécu dans la rue.
Je pense qu'on est tous d'accord. T'as énormément de raisons d'avoir voulu
quitter,
faire autre chose de ta vie et de partir. Mais si ça ne vous dérange pas, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de votre arrivée en France et de tout ce que vous avez fait et par où vous êtes passé jusqu'au squat dans lequel vous habitez maintenant?
Oui, surtout votre arrivée sur Lyon.
Ok, pas de problème.
Principalement alors.
Oui, moi personnellement, bon, dès le début du septembre, bon, on était au jardin. Bon, les bonnes volontés nous apportaient la nourriture, ouais, avec l'eau. En fait, les bonnes volontés qui nous apportaient des biens.
Vous étiez combien?
Bon, moi, je ne connais pas le nombre de personnes qui on était au jardin, mais on était nombreux. Vous voyez, bon, quand les bonnes volontés apportent la nourriture, bon, entre nous, bon, on ne faisait pas la barcode de la nourriture parce que la nourriture est insuffisante. Bon, on ne faisait pas la barcode de la nourriture. Bon, c'était pas facile, quoi. Il y a des gens, ils ont faim, ils vont manger. Vous voyez? Et quand nous aussi encore, on part pour faire l'évaluation au forum, le forum nous donne refus. Nous-mêmes, on s'est demandé, mais il y a quoi? Mais quand on part là-bas, on dit que non, peut-être n'a pas mieux. Bon, ça veut dire qu'on est désespéré. Moi, personnellement, quand je vais rencontrer mon usager, j'ai la frustration. Ça me fait mal. Je n'ai pas envie de rencontrer mon usager parce que moi, personnellement, vous voyez les cicatrices là.
Oui, oui, on voit la cicatrice. Ouais.
Voilà, ça c'est la balle que moi j'ai reçu, des balles. Il y a ici. Moi, si je vais raconter mon histoire, j'ai la frustration, ça me fait mal. On vient au forum pour expliquer. Ils vont nous demander tout ce que vous avez vécu pendant la route, que vous allez dire ça. Quand vous allez tous rencontrer, ils disent que non, que c'est faux. Oui.
Oui, oui, très bien, très bien.
Et bon, vraiment, au forum, bon, au jardin, des bonnes on dormait dans les tentes. Bon, la nuit, il faisait froid. Il
commençait à faire plus en plus froid, là, au mois de septembre. Là.
Oui,
vous avez vécu aussi tous les deux.
Ouais, on
était tous ensemble.
Vous êtes tous rencontrés là-bas.
Vous êtes tous rencontrés là-bas.
C'est au jardin, nous tous, on s'est rencontrés là-bas. Bon, on mangeait quand même, on mangeait un peu.
Et les bonnes volontés qui nous apportent la nourriture, avec les mamans aussi qui déchirent aussi encore, vous voyez, pour nous apporter la nourriture.
Et du coup, est-ce qu'on peut... Je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on peut demander, je ne sais pas, à l'État de... Parce que vu, c'est la période hivernale aussi qui arrive.
Alors, alors ça, on va y venir un petit peu après, justement, parce que on le sait que l'État a une part de responsabilité absolument énorme, puisqu'il se met dans l'illégalité. Normalement, enfin, l'État, et plus précisément la métropole de Lyon, doit héberger légalement les mineurs isolés étrangers dont vous faites partie et qu'elle ne fait pas depuis déjà beaucoup trop longtemps. Du coup, là, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'il y a donc depuis quelques jours un collège qui est vide depuis un certain nombre de temps, qui a été ouvert. Alors, est-ce qu'on a aussi une personne qui est un soutien hein, des mineurs isolés étrangers, qui va peut-être pouvoir nous parler un petit peu de ce collège. Alors, depuis quand il est vide, depuis quand vous l'avez ouvert, ou des personnes l'ont ouvert pour y placer ces mineurs isolés étrangers, et à qui ça appartient, et en quoi c'est aussi un joli coup politique. Alors, point par point.
Ça fait beaucoup de questions.
Ouais.
Je suis désolée. Bah oui, moi je suis une personne du collectif de Croix-Rousse. Donc en fait, oui, donc la date d'ouverture du centre d'accueil social autogéré collège Maurice Sève, je précise parce que du coup on a parlé de squat tout à l'heure. Mais concrètement là, ce qui se joue c'est autre chose. Il y a des enjeux énormes. Des enjeux politiques. La date d'ouverture, c'est du 25 septembre. Enfin, l'ouverture, non, enfin, mais l'ouverture en soi pour les démarches. Les jeunes se sont déplacés le 29 septembre, donc ça fait presque 2 semaines. On n'a pas eu accès au local directement, voilà. Voilà, donc en fait, au départ, la plupart des jeunes étaient au jardin des petits soyeux. C'est problématique et d'où aussi la politique là-dedans, c'est que la métropole, normalement, devrait prendre ses responsabilités et héberger tous les jeunes qui sont là. Sauf que c'est pas le cas. On a aussi, depuis plusieurs jours, des enfants qui sont redirigés par Forum Réfugiés directement. Donc, au centre d'accueil social qu'on a ouvert là, voilà, c'est quand même assez problématique. Personne ne prend ses responsabilités et voilà.
Alors, ce lieu, à qui il appartient ? C'est un collège. Ouais. Bon, il appartient à qui ?
Alors, ce lieu appartient à la métropole. Donc, la métropole est dirigée par Monsieur David Kimmelfeld, qui est alors donc directeur de la métropole. Maire du 4e arrondissement à Lyon.
Donc là où est le collège.
Là où est le collège, exactement. Il est aussi président du SCIC Habitat Rhône-Alpes. C'est important de le souligner parce que c'est une société anonyme qui a un capital quand même de 14 millions d'euros. D'accord. Et donc, je cite ça parce qu'en fait, le Jardin des Petits Soyeux, qui faisait partie de la métropole, qui était occupé par les jeunes... Et les habitats du Petit Soyeux, donc, en font partie de SCIC Habitat. Voilà, c'est très important parce que du coup, on est toujours face à Monsieur Kimmelfeld, qui ne prend pas ses responsabilités et qui, en plus, porte plainte contre l'occupation. Donc, c'est quand même très problématique de voir qu'il ne prend pas ses responsabilités, mais qui, en plus, porte plainte. Voilà.
C'est-à-dire que lui, d'un côté, ça ne le dérange pas d'être dans l'illégalité en n'hébergeant pas les mineurs isolés étrangers. Mais par contre, ça le dérange quand un bâtiment vide qui lui appartient, par contre, lui, est utilisé pour mettre à l'abri un certain nombre de mineurs isolés étrangers que lui-même devrait héberger. Effectivement, c'est quelque chose de problématique. Alors, où en est la procédure, justement, par rapport à cette occupation ?
La procédure, en fait, là, ça fait quelques jours, on a reçu donc l'assignation. On a donc un procès au tribunal administratif le 15 à 11 heures, okay. Voilà, le 15 octobre à 11 heures dans la chambre 6.
Ok. Est-ce qu'il y a un appel
Il y a un appel à la mobilisation qui est en train de se faire, parce qu'en fait, on va essayer de voir comment ça se passe, mais il va y avoir besoin d'une grosse mobilisation, que ce soit donc le jour même au tribunal administratif, mais aussi et surtout le jour même et les jours qui suivent sur place. C'est très important parce qu'en fait, on ne veut pas du tout, on n'acceptera pas d'évacuation. C'est pas possible. Il faut absolument qu'ils prennent la responsabilité. C'est pas possible. On n'acceptera pas une évacuation quelconque.
Alors, du coup, on approche bientôt de la fin. Il doit y avoir forcément beaucoup de besoins. Alors, quels sont ces besoins? Il y a une liste, visiblement, qui a été élaborée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est?
Je vais être rapide. Donc, le collectif Croix-Rousse qui s'est mis en place regroupe plusieurs organisations, plusieurs associations assez connues, comme Médecins du Monde, comme la CUM, comme l'AMI, etc. Donc, en fait, il y a des travaux par commission. Les personnes qui veulent soutenir en vraiment de près peuvent venir nous écrire à soutienmigrant@framaliste.org. Ils peuvent aussi se déplacer. Ensuite, la liste des besoins, on a une liste de besoins qui est sur Rebellion, qui évolue évidemment.
Mais est-ce que tu veux que je la lise très rapidement
ou... Oui, sinon je l'ai sous les yeux aussi.
Allez-y.
Donc, matelas, canapé, literie, couverture chaude, les vêtements. Alors, les vêtements, il faut absolument que ça soit des blousons, des chaussures, on en a beaucoup besoin. Voilà, en fait, la liste, en réalité, elle peut être très rapidement trouvable. On n'a rien dans les salles. Les salles sont vides, donc en fait, on n'a rien. Voilà. Oui. On a besoin aussi de d'ustensiles gros format pour pouvoir cuisiner, tout ce qui est gazinière, frigo, les produits secs aussi, alimentaires, etc. Pour ça aussi, on a besoin de faire des travaux, pour les travaux en électricité, si on a des professionnels qui peuvent venir nous aider quand même, parce qu'en fait, on est vraiment livré à nous-mêmes au final, même si on est plein d'associations, plein d'organisations qui essayent d'articuler, d'organiser tout ça. On a besoin de matériel, donc de plomberie et d'électricité. En électricité, bon, la liste n'est pas très longue, mais il la faut. Il faut des différentiels 16, 20, 32 ampères et des disjoncteurs ou des portes fusibles, pareil, 16, 20, 32 ampères. C'est pas grand-chose, mais il nous les faut. En plomberie,
vas-y, continue.
En plomberie, je dis rapidement, il faut des éviers. Des bacs, des robinets de cuisine, des robinets évier salle de bain, des baignoires, des robinets baignoires, des paumes de douche, etc. Voilà, c'est à peu près la liste des besoins. Ensuite, je veux juste dire quelque chose d'assez important. C'est qu'en fait, on essaie de mettre en place des permanences de présence.